Alors que depuis 2005, l'Africom remue ciel et terre afin de trouver une légitimité face au peuple et au gouvernement sénégalais, plus le temps passe, plus ces derniers montrent un rejet vis-à-vis de cette force colonialiste. Dans sa dernière démarche, dans le cadre de son détachement de l'Africom, le Sénégal a pris en main sa sécurité maritime, tant les enjeux sont devenus nombreux, surtout avec l'exploitation du gaz dans quelques mois. Le Sénégal, comme tous les autres pays côtiers, prend en main sa sécurité maritime. Il le fait en utilisant l'apport de ses partenaires, c'est-à-dire en entraînant ce qui fait le cœur d'une marine, à savoir les ressources humaines. Pour nous, le pilier principal de cette sécurisation passe par l'instruction, la formation et l'entretien des capacités acquises à l'école, note le contre-amiral Oumar Ouad, chef d'état-major de la marine nationale. Avec plus de 700 km de côte, la marine couvre une longue surface et doit faire face à de nombreuses menaces pour assurer la sécurité des eaux territoriales nationales, alors que la criminalité ne cesse de changer de visage, d'acquérir de gros moyens. Il y a la lutte contre le trafic de drogue, la pêche illégale et la lutte contre l'immigration clandestine. Pour ce dernier point, rappelle le contre-amiral, la marine sénégalaise est dans la phase d'interdiction, car il y a du travail à faire auquel elle participe avec différents acteurs dans le cadre de la prévention. Si la prévention ne marche pas, il faut intervenir. Un domaine de compétence de la marine, c'est une affaire combinée entre la marine et les autres acteurs qui permet d'empêcher les départs en mer de manière clandestine qui ont repris ces derniers temps, note-t-il en faisant sans doute référence au démantèlement des derniers réseaux de trafic de migrants et le drame de Kafountine. En plus de 10 ans d'existence, l'Africom des Yankees, qui siège à Dakar, n'a jamais pu organiser de grands exercices au Sénégal, ni mener qui que ce soit. Le Sénégal s'est même transformé en un lieu d'aide et de construction au contournement des sanctions US contre les États indépendants. Le fait que la marine sénégalaise prenne les choses en main est un échec de plus pour l'axe US OTAN, dans ce pays stratégique qui a déjà et à maintes reprises et dernièrement dans l'affaire ukrainienne a prouvé qu'il n'est pas du genre à se laisser faire et qu'il a son mot à dire. En effet, par son intelligence et vigilance, le président Sall a su neutraliser le complot occidental en Casamance qui consistait à faire un remake du scénario Cameroun ou Mali. Le gouvernement sénégalais est en parfaite cohésion avec ses voisins, mais aussi avec ses forces armées. Une armée qui n'a été autant équipée, modernisée et bichonnée que sous le président Macky Sall.
La levée des sanctions économiques de la CEDEAO à l'encontre du Mali ne doit certainement pas être vue comme la victoire d'un consensus ou comme le signe de bonne volonté de l'organisation régionale à l'encontre de Bamako. La réalité étant surtout que la résistance des autorités et de la population du pays a montré toute son efficacité et étend son influence bien au-delà des frontières nationales. Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, réunis lors du 61e sommet ordinaire, donc à Accra, au Ghana, ont décidé de lever les sanctions économiques et financières adoptées contre le Mali depuis le mois de janvier de cette année. Selon MaliWeb, les dirigeants de l'organisation régionale étaient encore tout récemment divisés sur la question de la levée des sanctions. Sans surprise, les principaux partisans quant au maintien des sanctions contre Bamako n'étaient que les présidents nigérians et ivoiriens Mohamed Bazoum et Alassane Ouattara. Et sans surprise, car étant aujourd'hui parmi les principaux représentants et défenseurs des intérêts france-africains, allant largement en sens inverse des inspirations de leur propre population et plus généralement des peuples d'Afrique. De son côté, le Sénégal, dont le président Macky Sall est actuellement et également à la tête de l'Union africaine, semble avoir été l'un des principaux intéressés à mettre fin aux dites sanctions, y compris en raison de l'impact que cela avait sur les intérêts économiques et commerciaux sénégalais, mais également à l'heure où Dakar s'engage progressivement sur la voie de la multipolarité, n'hésitant pas à aller même jusqu'à critiquer sur la question de levée des sanctions, comme ce fut le cas lors de la récente visite du chef d'État du Sénégal à Sotchi. Évidemment, durant la dite période des sanctions de la CDAO, qui d'ailleurs, selon nombreuses sources, était au départ largement influencée par Paris et certaines autres capitales occidentales, le Mali a pu compter sur le soutien et la solidarité de plusieurs pays africains, sans oublier la Russie ou encore la Chine ou même l'Iran, qui n'avaient pas hésité à utiliser leur droit de veto, donc au Conseil de sécurité de l'ONU, pour bloquer le texte français qui cherchait à apporter un soutien international aux dites sanctions. Mais très certainement, donc le grand mérite à ce succès pour Bamako revient une fois de plus à la très large mobilisation populaire nationale, qui non seulement n'a pas hésité à apporter un soutien ferme aux autorités du pays, mais également a fait preuve d'une capacité de résistance aux pressions extérieures de manière digne et patriotique. Ainsi, il ne faut certainement pas oublier que le Mali, après des années de chaos, est devenu, sous le leadership du colonel Assimi Goïta et de son équipe, une grande source d'inspiration pour nombreuses autres nations africaines et un exemple d'une résistance efficace au néocolonialisme occidental nostalgique de l'unipolarité. De manière générale, les événements en cours démontrent parfaitement que les sanctions, l'un des instruments favoris de l'établissement occidental et de ses supplétifs, non seulement n'apportent pas de résultats escomptés pour ses instigateurs, mais au contraire poussent les nations dignes à accroître les efforts en vue de contrebalancer les difficultés que les dix instigateurs cherchaient à créer pour les pays sanctionnés. Quant aux autres leaders africains qui ne peuvent pas, pour nombre d'entre eux, donc se vanter d'une popularité comparable à Assimi Goïta sur les scènes nationales et continentales, plusieurs néanmoins comprennent que face aux événements en cours, il est plus que jamais temps de se mettre à jour des nouvelles réalités planétaires. En ce qui concerne ceux ayant fait le ferme choix de rester aux côtés de l'établissement occidental jusqu'au bout, au-delà de poursuivre leur propre marginalisation et isolation dans une Afrique qui choisit de plus en plus ouvertement la voie du panafricanisme et d'un libre choix de ses partenaires extérieurs, leur avenir n'a rien de très prometteur. Et le fait de se réfugier donc dans la bulle pro-occidentale en espérant que cela leur évitera d'être balayés par les mobilisations populaires de masse semble être une erreur stratégique de personnages faisant mine, à l'instar de leurs parrains, de ne pas comprendre l'ordre international multipolaire et ce qu'il deviendra.
Ce devrait être un moment historique. Vendredi 8 juillet, le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba, a convié cinq anciens chefs d'État burkinabés au palais présidentiel de Kossiam. L'objectif de cette rencontre? Lancer la réconciliation nationale pour faire front face au terrorisme. Pour l'occasion, le président Damiba a même permis le retour de Blaise Compaoré, mais seuls deux anciens présidents se sont présentés. Comment peut-on analyser ce sommet? Le général Damiba cherche-t-il réellement un Burkina uni et anti-Occident?
Quel est le pays choisi par les Américains et les Français pour être le centre de la nouvelle guerre du Sahel, remplacer le Mali? Et donc, c'est un pays où toutes les forces occidentales s'impliquent. La réalité du pouvoir, c'est que le président Bazoum, c'est un homme de pain lui-même, disons fou. Il a été mis là parce qu'ils ont fou, ne peut plus faire de troisième mandat. C'est un domestique des Français, mais c'est également un domestique de l'ancien président. Le Niger abrite une base américaine, une base allemande, une base espagnole, mais aussi c'est là qu'est implantée la fameuse guerre des drones américaines qui ensanglante le Sahel. Dès lors, cette réunion, évidemment, elle vise à planifier le rétablissement des Occidentaux dans un pays où la population est violemment opposée à la présence française. Voilà donc ce qui se passe. Et Damiba, évidemment, il a beau, si vous voulez, essayer de mettre les formes pour contenter sa population. C'est quelqu'un qui, semble-t-il, est au service surtout des Américains et ensuite des Français. Ce sont les Américains qui sont aux affaires au Niger et les Français tentent de paralyser de parasiter, pardon, les plans en France, les plans américains pour rester présents dans la région. Mais il y a des coups d'État anti-occidentaux, des coups d'État pro-occidentaux. Le coup d'État de Damiba est un coup d'État pro-occidental et toutes les positions de Damiba jusqu'à maintenant rentrent dans ce schéma. Bien entendu, mais ça, c'est le parasitage des Français. Le plan initial des Américains, c'est d'américaniser et d'otaniser, notamment avec les Allemands et les Espagnols, la guerre du Sahel, et de remplacer les Français dans le Sahel. Les Américains savent que les Français ont perdu la guerre du Sahel. C'est le fameux livre de Marc-Antoine Pérouse de Montcourt, Une guerre perdue de la France au Sahel. Et secondement, évidemment, de redéployer les Français dans une zone qui est en mer Rouge et au Mozambique. Mais les Français, évidemment, ne sont pas décidés à se laisser remplacer dans le Sahel et donc ils parasitent les plans américains. Le redéploiement de Barkhane au Sahel, c'est pas ce qui était initialement prévu par les Américains, mais les Français, évidemment, savent que les Américains ne peuvent pas ouvertement se poser en remplaçant des Français et ils jouent là-dessus.
Le Ghana et la Côte d'Ivoire signent un nouveau pacte pour un prix rémunérateur et durable aux producteurs de cacao. Le comité économique et commercial de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana organise une réunion de haut niveau réunissant la Côte d'Ivoire et le Ghana ainsi que les hauts représentants de la chaîne de valeur du cacao ce vendredi 8 juillet 2022 à Accra en vue de la mise en œuvre d'un pacte économique pour un cacao durable. Les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana envisagent lors de cette rencontre l'élaboration d'un cadre d'action commune afin de trouver une solution durable au problème du prix du cacao. Il s'agira d'un engagement renouvelé lié à la vision des chefs d'État de la Côte d'Ivoire et du Ghana de créer un programme de réflexion et d'action dans lequel le prix obtenu par le producteur est la variable clé de l'équation de la durabilité. Inauguration de la centrale solaire de Nagréongo de 30 MW au Burkina Faso. En Afrique subsaharienne, davantage de projets de centrales solaires voient le jour, ce qui dénote d'une volonté manifeste de mieux profiter du potentiel électrique qu'offre l'ensoleillement quasi permanent dans la région. Le Premier ministre burkinabé Albert Ouédraogo a inauguré ce jeudi 7 juillet la centrale solaire photovoltaïque de Nagréongo, une commune rurale du Burkina Faso située dans la région du plateau central. La nouvelle centrale a une puissance de 30 MW. La centrale solaire de Nagréongo aura une durée de vie estimée à 25 ans et devrait satisfaire la demande d'environ 25 000 foyers. Elle permettra aussi d'éviter le rejet de 27 000 tonnes de CO2 par an. Au Mali, le président de transition appelle à l'unité après la levée des sanctions. Le président de transition malien, le colonel Assimi Gouata, a appelé vendredi à l'unité et à se concentrer sur le développement et la stabilité dans son premier discours après la levée des sanctions économiques imposées par la CEDEAO contre le Mali. Le temps est venu d'une union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation, a déclaré dans une émission en direct Assimi Gouata, arrivé au pouvoir en mai 2021. Les dirigeants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et CEDEAO ont levé dimanche les sanctions contre le Mali. Le colonel Gouata a par ailleurs remercié la Guinée et la Mauritanie voisines pour leur solidarité tout au long de l'embargo. Leurs territoires et ports à Conakry et Nouakchott ont permis de contourner l'embargo ouest-africain, a déclaré le colonel Gouata. Au Sénégal, les nouvelles infrastructures de l'aéroport de Saint-Louis seront inaugurées le 14 juillet 2022. Le gouvernement sénégalais poursuit la mise en œuvre de son projet pour faire du pays un pôle de transport aérien et du tourisme en Afrique de l'Ouest. L'inauguration de l'aéroport de Saint-Louis, construit au nord de Dakar, se fera jeudi 14 juillet prochain en présence du président sénégalais Macky Sall, selon l'agence de presse sénégalaise. Les travaux sont achevés à plus de 96% et le 14 juillet, il sera inauguré avec toutes les commodités requises, a annoncé Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui a indiqué qu'après la réception de l'infrastructure, des démarches seront entreprises pour la sécurisation de l'aéroport dans les meilleurs délais et son alignement sur les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale.